Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is what you meant, alarm phone.
What's the name, alarm phone?
Hello, my friend. This is alarm phone. How are you, my friend?
I hear you.
Can you hear me?
Hello, my friend.
Okay, can you give me your GPS position?
Can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm Phone. Freedom, I don't meet
them. Where's your freedom? Can you hear me?
Okay, I call you back.
What kind of boat are you on?
See around you?
Can you give me your GPS position?
How many are you
position?
On the boat?
I hear you.
Can you hear me? And stay strong.
Okay, I call you back.
I will call
Let's
you back.
Try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant.
165 personnes par mois.
41 personnes par
semaine. Près de 6 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique amère, une émission mensuelle contre les politiques de frontières européennes, et toujours depuis l'alarme phone. Ce mois-ci, dans Chronique amère, on avait envie de continuer à parler des conséquences de ce que fait l'Europe en matière de frontières, pas seulement en Méditerranée, et pas seulement sur les lieux de départ des traversées de la mer, mais bien plus au sud, dans le désert du Sahara et les pays que ce désert traverse. La mer Méditerranée est bien souvent une petite partie du voyage de personnes qui, avant d'embarquer, ont traversé bien des pays. On marchait.
جيري محبوب ملشوي اي لبار ولار ولنزو بجنو بالا يدمرم اي لبار ولار ولنزو بجنو بالا يدمرم
Les lanceurs d'alerte sont à Asamaka et à Bilma. Parce qu'on a choisi Agadez, parce que Agadez est la ville principale de transit de beaucoup, beaucoup de migrants.
Alors, comment on fait ? Donc ça, c'est la carte du Sahel et du Sahara.
Oui, on n'a pas d'échelle sur cette carte. Du coup, on...
Mais du coup, c'est difficile de se rendre compte.
Sinon, tu demandes à Google un itinéraire à Agadez-Tripoli.
Ah oui, bah, je fais ça. On va voir. 2690 km.
Sachant que la 2690 km, c'est la route la plus directe.
Oui, c'est sans compter les contrôles.
Et en fait, ça c'est bordé comme, c'est, comme si c'était un pays, mais c'est pas...
Le Niger ?
Ah, ça c'est le Niger, ok.
Ça c'est le Niger, ouais, qui est un grand pays.
Mm.
Et oui, le Sahel, c'est vraiment cette bande qui délimite au nord le Sahara, le désert, et au sud, une partie plus humide.
Le Sahel, il traverse donc Mali, Niger, Tchad. Ça, c'est tout.
Qu'est-ce qu'il y a
Ah oui, à l'est du Tchad, c'est le Soudan.
Mm.
Du coup, c'est vraiment ça, ça traverse l'Afrique.
Ouais, ouais.
D'ouest en est, du Sénégal jusqu'au Soudan.
Et on voit là dessiner ces frontières, notamment entre l'Algérie, le Niger, la Libye et le Tchad, qui sont vraiment en plein désert.
Mm. Je me demande si elle est matérialisée.
Il y a des endroits où il y a une vraie frontière. Je veux dire physique, en sens où il y a effectivement un mur de sable,
okay,
qui a été construit
à certains endroits.
Un mur de sable qui est complètement visible depuis en haut, depuis le ciel, et qui empêche les gens de le franchir à cet endroit-là. Et du coup, en fait, il n'est pas continu sur toutes les frontières tout le long, mais dans le désert comme ailleurs, bah, tu peux pas marcher tout droit. Il y a des endroits où les gens sont obligés de faire des détours pour contourner ce mur. Et c'est assez visible que pour les personnes qui viennent plus du sud, d'Afrique centrale par exemple, quand tu remontes, bah, le Niger est très central en termes de zone pivot. Que tu veuilles aller en Afrique du Nord occidentale vers le Maroc ou que tu veuilles aller vers la Libye.
Mmh.
Sur l'état du Niger, parce que c'est un pays non seulement de départ, beaucoup de zones nigériennes sont des zones de départ de migration, c'est aussi un pays de plus en plus de destination à cause de sa richesse, surtout richesse souterraine, l'uranium, l'or, le ciment et beaucoup d'autres. Et c'est aussi un endroit riche en termes d'environnement. Alors, c'est de plus en plus devenu un pays de destination, mais surtout un pays de transit par lequel presque tous les pays de tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest passent par le Niger pour se diriger vers les pays du Maghreb. J'insiste bien sur les pays du Maghreb, parce que l'intention de beaucoup, ce n'est pas pour aller en Europe, en tout cas en son temps.
Et les villes qu'on voit là sur la carte, donc au Niger, il y a Niamey, qui est la capitale. Il y a Agadez, qui est vraiment, je crois, traditionnellement une ville de transit très importante pour les gens qui voyagent dans le désert.
Tu sais pourquoi ?
Agadez, c'est le milieu du Niger. De sa frontière sud-ouest, la frontière sud-ouest du Niger, pour aller vers sa frontière nord-est, Agadez est au milieu. Vous allez parcourir plus de 1000 km pour arriver à Agadez. Et pour d'Agadez, pour aller à la frontière nord-ouest aussi, il faut parcourir plus de 1000 km. Et c'est là où les mesures les plus draconiennes sont appliquées. Et ce n'est pas un fait de hasard. De tout temps, Agadez a été un endroit, un lieu de convergence des populations venant du nord, comme je disais tantôt, et celles venant du sud. D'où d'ailleurs le nom d'Agadez. En langue nationale, Tagadez signifie endroit qui accueille les visiteurs.
D'abord, notre association ADEM, l'Association pour la défense des immigrés maliens, a adhéré au réseau Afrique-Europe Interact, qui est un réseau transnational composée de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Donc, en 2017, j'ai participé à une rencontre de Alamphone à Rabat. Donc, c'était ma première rencontre avec Alamphone. Donc, du coup, ça nous a donné une idée. J'ai amené les documents de Alamphone tels que la carte, là où se trouvent les numéros. Donc, comme Adem fait une émission radio chaque samedi, donc j'ai parlé de Alamphone Méditerranée, comment se passe le sauvetage sur la mer. Ça a beaucoup plu aux auditeurs, donc ils ont appelé quand on a laissé le micro. Alamphone Méditerranée, c'est bon, mais il est bon aussi de créer Alamphone Sahara. Et c'est de là, à la deuxième rencontre de AP, que nous avons parlé de la création de Alamphone Sahara.
Alamphone Sahara, d'abord, a comme devise droit de partir, droit de rester. Nous ne sommes pas pour la restriction des mouvements. Ça, c'est un. Et nous sommes fixés pour atteindre, pour faire valoir ce slogan, nous sommes fixés trois objectifs qui sont sensibiliser, documenter, secourir. Sensibiliser, c'est pour vraiment éveiller les candidates et les candidats à la migration sur les risques qui entourent la traversée du Sahara.
On leur dit faire attention aux passeurs. Si les migrants ne sont pas tombés sur un bon passeur, ils peuvent prendre les migrants et aller les déposer au milieu du Sahara pour dire qu'ils sont déjà arrivés, alors que ce n'est pas vrai. Parce que le désert est très très vaste et immense. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Donc s'il y a même une lumière à plus de 50 km, on peut apercevoir la lumière. Donc, s'il est de mauvaise foi, il peut laisser les migrants là-bas pour dire que voilà, vous êtes déjà arrivés, voici la lumière en Algérie, alors que ce n'est pas vrai. Donc, il y a beaucoup de migrants qui subissent ces maltraitances dans le désert. Donc, il y en a qui se perdent, il y en a qui meurent de soif, de faim. La traversée du désert, ça peut durer, c'est pas, ça ne vaut pas une semaine, mais il peut faire beaucoup de jours là-dessus. Parce que c'est vaste, il faut choisir les routes qui sont moins courtes. Et la méconnaissance du désert fait qu'il y a de ces migrants qui se perdent parce que le désert est très vaste. Et avec la présence du sable, si le vent se soulève, il peut faire disparaître la route. Donc il faut se munir au moins d'un boussole pour connaître le nord, le sud, et ainsi de suite, quoi. Et ce menhir d'un turaya. Un turaya, c'est un téléphone satellitaire dont on peut même appeler même s'il n'y a pas de réseau. Il faut que le chauffeur a un turaya, il faut qu'il a suffisamment d'eau dans son véhicule, il faut que son véhicule soit en bon état et prenne la bonne route avec eux. Voilà, on se dit, il faut se munir d'un peu de nourriture, d'un peu de médicaments, et un peu d'eau aussi en cas de problème dans le désert. Voilà.
Au-delà de la sensibilisation, nous avons des personnes, une fois informées, qui décident de se confier à nous à travers des informations de leur vécu, de leur trajet migratoire ou des informations dont nous avons besoin pour mieux agir sur le terrain. Et avec leur accord, nous essayons de documenter ces informations et avec leur accord, nous les publions sur nos sites web. Il y a une autre activité très difficile que nous faisons, c'est le secours ou l'assistance. Nous avons mis à la disposition et des conducteurs de véhicules et des passagers qui traversent le désert en direction du nord nous avons mis à leur disposition notre ligne verte. Tant qu'on est sur le territoire nigérien et qu'il y a la possibilité d'avoir les réseaux, on peut nous contacter sous forme d'appel de détresse. Dès que nous arrivons à être en contact avec ces personnes, nous essayons de leur poser les questions qui peuvent nous orienter plus ou moins de leur position. S'ils ont un appareil Touareg, ce qui est difficile à transporter, ils peuvent nous donner leur position géographique à travers des coordonnées GPS.
On a nommé des lanceurs d'alerte dans certains villages.
Et alors les lanceurs d'alerte avec lesquels nous travaillons et qui nous donnent des informations en temps réel sont non seulement dans la ville d'Agadez, mais aussi à Arlit, à Assamaka et dans le département du Kawar, communément appelé Bilma. Donc, ils sont situés sur les routes migratoires.
Donc, nos lanceurs d'alerte sont là. Ils sillonnent le désert. Donc, s'ils aperçoivent ou bien ils voient des migrants en détresse, qui sont soif, qui ont faim, il y en a qui sont malades. Donc, nos lanceurs d'alerte sont là. Ils ont un tricycle. Je ne sais pas si tu connais le tricycle. Donc, ils prennent les migrants avec ce tricycle pour les amener à Assamaka pour leur donner les premiers soins, leur donner à manger, à boire. Voilà, donc ils peuvent rester là-bas pendant quelques temps pour se reposer et puis continuer leur route s'ils veulent.
Forte de sa tradition coloniale, la France est très présente dans la région. Elle veille sur ce qu'elle considère être son précaré et sur ses intérêts. Comme cette mine à Arlit, au nord du Niger, qui fournit une grande partie de l'uranium nécessaire à la production de l'électricité française. Et si l'armée française s'est depuis peu retirée du Mali, elle est encore bien présente au Niger et au Tchad. Rémi Carayol, journaliste à Afrique 21, nous parle du rôle de la France et de l'Union européenne dans la fermeture des frontières sahéliennes à travers la mission ECAP Sahel.
Alors ECAP Sahel-Niger, c'est une mission de l'Union européenne, une mission civile, pas une mission militaire, mais qui est concentrée sur les questions d'ordre sécuritaire, puisque c'est une mission en fait de coopération et de formation des forces de sécurité intérieure du Niger, donc la police, la gendarmerie, la police aux frontières. C'est pas des représentants des armées européennes, mais c'est des représentants souvent des polices européennes, avec donc la police, la gendarmerie, les forces de sécurité intérieure. C'est une mission qui a été créée en 2012, et dont l'objectif à l'origine est donc d'accompagner les forces de sécurité dans leur montée en puissance, comme on dit souvent, dans leur formation, dans leur équipement et dans leur fonctionnement. Mais assez rapidement, en fait, à partir de 2015-2016, ECAP a joué un autre rôle qui a été celui de mettre l'accent sur la question des migrations, sur la gestion des flux migratoires et en réalité sur la fermeture des frontières, en fait, et sur le contrôle des flux des migrants qui passent par le Niger. Et donc, une antenne a été créée notamment à Agadez. Et donc, ECAP a commencé à financer des programmes donc pour contrôler les flux migratoires et a même mené des opérations, on va dire, de contrôle dans le désert au-dessus d'Agadez. Toujours dans le cadre soi-disant de la formation. Voilà. Et donc, ECAP joue un rôle quand même important dans ce processus-là qui est issu du sommet de la Valette de 2015 où l'Union européenne avait décidé de mettre l'accent sur les flux migratoires en provenance du continent africain et notamment de sous-traiter la question de la fermeture des frontières, non plus aux États du Maghreb, notamment à la Libye, au Maroc, mais aux États de l'Afrique subsaharienne, et le Niger est l'un des principaux États qui coopère en la matière très étroitement avec l'Union européenne.
Et Asamaka, je sais pas si vous voyez, c'est là où se cristallisent un peu toutes les luttes récentes, notamment d'Alain Ponsahara. Parce qu'il y a des gros campements là-bas de personnes qui sont en attente de transfert, retour vers leur pays d'origine.
Ok. Des personnes qui ont été expulsées d'autres endroits et qui se retrouvent à Asamaka.
Notamment les personnes qui sont expulsées d'Algérie.
Ok.
Les personnes qui sont expulsées d'Algérie, en fait, elles sont raflées. Après, elles sont amenées vraiment à cette frontière-là.
Entre l'Algérie et le Niger, au nord du Niger, quoi.
Ouais, qu'on appelle le point zéro. Et en fait, elles sont laissées là. Et du coup, elles doivent finir à pied pour arriver jusqu'à Asamaka, qui est le premier endroit, première ville où il y a un peu d'infrastructure d'accueil.
Alors, la politique de fermeture des frontières depuis plusieurs décennies aujourd'hui s'amplifie de jour en jour. Et l'Algérie, qui est reconnue comme l'un des pays du Maghreb qui, je dirais, travaille pour Frontex, n'aime pas ces personnes-là. Ces personnes, je les dénomme les migrants, qui juste parfois veulent transiter. Et du coup, l'Europe n'accepte pas ça parce que pour l'Europe, ce sont des personnes qui transiteront pour prendre la Méditerranée. Et naturellement, l'Algérie qui reçoit des fonds énormes, des sommes énormes, à cette obligation de rendre compte. Et c'est pour ça que l'Algérie a mis les gros moyens financés par l'Union européenne, Frontex et toutes les organisations contre la liberté de circulation. Alors l'Algérie a créé un système depuis Taman Rasset, passant par Borj Bajim Mokhtar, pour mettre fin au transit et au passage et à l'entrée sur le sol algérien. Alors ces frontières fermées crée de plus en plus de cas de disparition dans le désert. Il y a 20 ans, les routes normales de migration étaient empruntées par les migrants. Mais aujourd'hui, les nouvelles routes se sont créées, des nouvelles routes plus dangereuses, plus meurtrières, et des centaines de milliers de migrants aujourd'hui sont portés disparus dans le vaste désert du Niger et du nord du Mali. Nous voulons lutter pour remettre en place la liberté de circulation et que le Niger, par exemple, et l'Algérie remettent en cause ce qu'ils font aujourd'hui aux migrants et adoptent cet article des droits humains qui dit que tout homme est libre d'aller où il veut. Et nous voulons que tout le monde entier sache que la migration n'est pas un crime, que la migration est quelque chose de normal. Et on lance aussi un appel à l'Union européenne de temps en temps, expulse les migrants au niveau de l'Afrique pour leur dire stop. Parce que des migrants qui ont déjà risqué leur vie dans le Sahara pour une première fois, risqué une deuxième fois pour traverser la Méditerranée et qui, une fois arrivés en Europe, se voient expulsés, pour nous, nous disons ça, c'est une double pouvoir, triple criminalisation de la migration. Et que l'Europe accepte que si aujourd'hui les richesses africaines sont pillées, si aujourd'hui les lois africaines sont bafouées pour mettre au pouvoir des personnes qui vont leur rendre service, que cette même Europe accepte après d'accueillir les migrants sur leur sol. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que qui crée la guerre accueillera les réfugiés. Et il faut qu'on assume à un moment donné nos responsabilités.
Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On avait envie de finir cette émission par des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour toutes celles et ceux qui luttent au quotidien pour la liberté de circulation aux frontières de l'Europe, dans le Sahel et partout ailleurs. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes qui subissent la violence des politiques européennes alors même qu'elles sont à des milliers de kilomètres de l'Europe. des pensées de solidarité pour toutes les personnes noires qui subissent des attaques racistes quotidiennes en Tunisie. Ces attaques sont de plus en plus nombreuses et violentes depuis quelques semaines. Elles font suite au discours complotiste du président Kais Saied sur un soi-disant grand remplacement de la population tunisienne par des migrants subsahariens. Ce type de discours est largement inspiré par des théories de l'extrême droite française. Ces politiques racistes sont aussi une des conséquences de la pression de l'Union européenne sur les pays du sud de la Méditerranée pour empêcher les personnes exilées de partir vers l'Europe. Et on a la rage d'être encore et toujours témoin du fait que des décisions politiques au nord de la Méditerranée ont des impacts d'une violence hallucinante sur des millions de personnes au sud. Et on a envie de continuer à lutter contre ces politiques racistes et colonialistes. Merci à toutes celles qui ont rendu cette chronique possible. Merci à ceux qui ont participé, qui ont fait des retours, qui ont diffusé. Merci à Rémi pour avoir partagé ses recherches sur les forces de police européennes. Merci à Diori, à Pierre et à Azizou d'Alarmphone Sahara qui font un travail politique qui nous donne de la force. Merci d'avoir partagé vos analyses et vos expériences d'activisme avec nous. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Et pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.
Radio Lora, das politische, feministische, kulturelle und experimentelle Radioprogramm für Zürich, ist auf ständige Unterstützung angewiesen.
Radio Lora, Programm für Alternative Politik, Feministik, kulturell, experimental für Zürich. Was ist ein Favorit-Tuai, der Favorit-Tonst, Naperkrani?
Deshalb werde Mitglied und unterstütze die Programmalternative mit deinem Beitrag auf das Konto 80-144-03-9.
Contributi juaj për ne do të ishte mirëse ardhur për këtë radio alternative në këtë konto numër 80-144-03-9.
Silence. This neglect is violent.